Scrivens O, Scrivens A.
Cette émission se propose d'explorer les mystères de la création littéraire et poétique, en commençant tout d'abord par enquêter sur ce qui se trame dans les ateliers d'écriture marseillais. Les mots voyageurs proposent tout aussi bien des ateliers hebdomadaires que des stages ou encore des dimanches pour affûter les plumes. Noël, animatrice, dans le cadre du cycle intitulé « Ce qui fait maison », s'est prêtée au jeu de l'interview. Bonjour Noël, merci de me recevoir.
Bonjour.
Toute première question, je me demandais quelle était ta formation pour animer des ateliers d'écriture au sein des
voyageurs. Alors la formation, déjà, enfin bon, c'est toujours un chemin tout ça. Hein. C'est toujours, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de ligne droite. J'ai animé des ateliers d'écriture avant même d'être formée directement au Canada. J'ai commencé au Canada quand je vivais en anglais, en milieu anglophone minoritaire pour les francophones, et j'ai animé des ateliers d'écriture pour des Français qui n'avaient, ou des francophones en tout cas, qui n'avaient pas l'expérience ou en tout cas la possibilité d'écrire en français en milieu anglophone. Quand je suis rentrée en France, j'ai fait le DU à Marseille, le DU de formation, ça s'appelle le DU d'animation, non, de formation à l'animation d'ateliers d'écriture. Qui m'a permis d'acquérir des outils. Et puis, en même temps, je travaillais à l'Université d'Avignon en français langue étrangère et j'animais des ateliers d'écriture avec mes étudiants, donc de français langue étrangère. Et j'ai beaucoup, beaucoup fait écrire en fait, mes étudiants à l'époque. Et c'est devenu une recherche, c'est devenu un objet de thèse. Donc j'en ai fait une thèse en 2013, qui portait sur les processus de création textuelle et les identités plurilingues. Donc c'était une thèse qui me permettait de réfléchir à finalement qu'est-ce qui se passe pour les étudiants ou les personnes qui ont plusieurs langues, qui utilisent plusieurs langues dans leur vie quotidienne, mais aussi dans leurs textes. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux d'écrire ? Donc ça, c'était l'objet d'une thèse, et de fil en aiguille, voilà, il y a d'autres travaux de recherche qui ont émergé de ça, et mes propres écritures qui ont mené ensuite à un deuxième travail de recherche en création littéraire. Quoi. Voilà.
Si j'ai bien compris, tu dis écrire et faire écrire.
Oui. Les deux combinés, en fait. Moi, je ne peux pas concevoir l'atelier d'écriture séparé. C'est-à-dire que, en fait, l'atelier, c'est on y écrit, j'écris et je fais écrire. C'est-à-dire, je ne peux pas ne pas écrire en même temps que les participants de mes ateliers. C'est-à-dire que je me frotte moi-même à la proposition d'écriture que je fais, que je formule, que je mets en avant, que je propose. C'est une proposition, donc ça veut dire que voilà, il y a un point de départ, il y a un déclencheur, il y a quelque chose qui existe. Et à partir de là, chacun va trouver son point de rapprochement ou d'éloignement par rapport à cette proposition d'écriture. Il y a juste, en fait, une sorte de un chemin, une tentative, une tentation, un cheminement, un effleurement. On peut juste aller vers l'écrit, vers ce qui nous bouge, ce qui nous fait bouger à l'intérieur. Et donc l'écriture, ça reste toujours une recherche, en fait, un chemin. Donc c'est vraiment comme ça que je le présente, l'atelier.
Est-ce que le chemin, c'est une forme de cadre ?
Oui, alors la proposition, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Enfin, la proposition, elle est basée sur un ensemble de choses qui sont déjà les textes qui sont lus. Donc dans tous les ateliers, il y a une lecture de 2-3 auteurs, en général de poésie contemporaine, en général des auteurs qui sont avec des écritures, enfin qui écrivent de manière très différente. Donc il y a déjà un travail sur le rythme, un travail sur le son, un travail déjà qui est présenté aux participants. Et après ça, il y a un cadre justement qui fait partie de la proposition. Il y aura quelque chose qui va être présenté de manière à pouvoir déclencher l'écriture. Mais à partir de là, chacun en fait ce qu'il veut. Chacun va tirer le fil qui lui convient. Si ça va être un fil qui sera plus porté sur le son que le rythme, plus sur la sensation, plus sur l'émotion, plus sur la langue, ça peut être plus porté sur la langue, etc. etc. Mais je veux dire, chacun va tirer le fil qui lui convient. C'est-à-dire que je cherche à ce que chacun puisse trouver dans ce cadre, parce que la proposition, je la considère comme un cadre, mais que chacun puisse y trouver sa forme. C'est-à-dire que finalement, au bout du compte, chacun a son rythme, chacun son souffle, donc chacun sa forme. Donc on ne va jamais écrire tous la même chose. On ne peut pas écrire tous la même chose. On ne veut pas écrire tous la même chose. Donc ce qui va se passer, c'est que chacun, au fur et à mesure, tente d'aller vers quelque chose qui répond ou réponde à ce qui convient à son propre rythme, son propre souffle. C'est ça qui m'intéresse.
Et comment organises-tu en amont ces ateliers ?
Tu veux dire que la préparation ?
La préparation, si on prend l'exemple de ce qui fait maison.
Ouais.
Comment l'as-tu préparé ? Apparemment, c'était en deux temps, peut-être ouais. Même plus.
Ce qui fait maison, c'est un cycle sur 5 semaines déjà. Mais c'est-à-dire que je travaille sur des cycles de ça depuis le confinement en fait. Avant le confinement, je faisais pas ça et puis il m'a fallu quelque chose de nouveau ou je sais pas exactement pourquoi. Donc je travaille sur des cycles de 5 ateliers autour d'une thématique. Ce qui fait maison. Bon, c'est une thématique très porteur hein, pour le coup. Une thématique. Ce qui fait maison. Tout peut faire maison. Hein, je veux dire. Une page d'un carnet peut faire maison pour certains. Hein, je veux dire. C'est pas une maison forcément avec un toit. Et un carton peut faire maison. Un carton fait maison d'ailleurs pour certains. Une musique peut faire maison. Une chaise peut faire maison. En tout cas, un arbre peut faire maison. Mais je travaille avec. Je cherche en fait les textes, les auteurs. Je travaille d'abord à partir des auteurs, d'abord à partir des textes. Par exemple, là, je prenais en lecture Véronique Côté, une jeune poétesse, auteure québécoise qui a grandi au bord du Saint-Laurent. Et on peut dire dans son écriture, dans son écriture poétique, que le Saint-Laurent fait maison pour elle. Et en fait, c'est vraiment d'aller chercher ensuite les auteurs donc, qui ont un lien peut-être avec cette thématique. Je prends par exemple Camille Loivier dans Éparpillement, un texte poétique qui a été publié aux éditions Isabelle Sauvage. Ça s'appelle Éparpillement. Et pourtant, dans cet éparpillement, il y a plein de pièces. Le pourtant n'est même pas nécessaire, mais il y a plein de morceaux, il y a plein de chaos, il y a plein d'objets qui font maison. Il y a plein de souvenirs, il y a plein de mémoires, il y a plein de rapports émotionnels qui font maison. Donc je cherche différents auteurs que je vais faire mettre en collision. Je ne cherche pas à ce qu'il y ait cohérence forcément entre ces différents auteurs. Même encore hier, en atelier, dans Ce qui fait maison, puisque c'est le cycle dans lequel nous sommes en ce moment, j'ai pris un texte de Pérec dans Espèce d'espace qui porte sur les murs. Les murs font maison aussi. Et que ce soit des murs, on va dire des murs en briques ou des murs intérieurs, je veux dire murs dans le sens très vaste. Et chacun, ensuite, avec cette collision ou cette rencontre de textes, d'écritures très différentes les uns les autres, hein, eh bien, va y trouver son ressenti, va y trouver sa source ou son fil, je parle souvent de fil à tirer, va y trouver en fait comment dans l'écriture faire maison. Mais je travaille beaucoup avec le fragment ensuite, voilà. Donc, ayant dit tout cela, c'est le fragment poétique qui m'intéresse, en tout cas.
Oui,
voilà.
C'est ça. La poésie, c'est l'essence même des mots voyageurs.
Alors, je ne sais pas si c'est l'essence même des mots voyageurs, parce qu'on est 3 animateurs et on va dire qu'on anime avec un esprit, on va dire, un esprit assez uni, assez solidaire en termes de recherche d'écriture. On ne prendra pas forcément les mêmes textes en référence. D'ailleurs, chacun prend les textes qui lui semblent bons. Hein. On prend des textes qui nous plaisent. Moi, je fais peu appel au roman. Peut-être d'autres font plus appel au roman. Et par contre, je trouve ce qui nous unit aussi, c'est en fait une recherche de comment habiter le monde poétiquement. Donc, comment faire écrire poétiquement. C'est-à-dire, comment finalement être à chaque instant, à chaque texte, à nouveau émerveillée, non pas dans le sens de la merveille, mais émerveillée par « ça recommence ». Ce cycle-là, cette recherche, ça recommence encore. Il y a encore quelque chose là. Il y a encore quelque chose qui veut s'exprimer, qui veut surgir. Et c'est ce recommencement-là qui nous intéresse. Finalement, encore aller chercher cela qui demande à naître. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui nous anime, en fait. Du mot « anima hein, », je veux dire, voilà, c'est la flamme quand même. Hein.
Et est-ce que tu penses qu'à partir du moment où la personne qui a été habitée par cette flamme, par cette anima, va changer de regard sur les objets, sur ce qui fait maison pour elle à partir de ce qu'elle a pu écrire en atelier?
Ça, c'était exactement le constat la semaine dernière dans l'atelier dans lequel... justement avec un texte de Camille Loivier, Éparpillement, il y avait donc tout ce travail sur les objets qui font maison, et à la fin de l'atelier, à la lecture des textes, la plupart des participants disaient je ne regarderai plus jamais une chaise pareille, je ne regarderai plus jamais une éponge ratatinée pareille, parce que dans le texte de Camille Loivier, il y a des objets improbables qui font maison, dont une éponge ratatinée. Le tabouret avec un pied bancal, l'horloge qui traîne dans un coin là, qui finalement n'a pas été mise à l'heure depuis très longtemps, et comment est-ce qu'elle peut faire maison. En fait, tous ces objets-là, dans son texte, on se disait que finalement, oui, habiter le monde poétiquement, ça veut dire aussi regarder nos objets, regarder ce qui nous entoure d'une certaine manière, avec un regard plus présent, un regard plus conscient, en fait, de ce qui nous entoure et de ce qu'on en fait. La manière dont on regarde le monde, c'est aussi la manière dont, finalement, on s'inscrit dans le monde. Donc, regarder nos objets différemment, oui, c'était un constat, ou en tout cas un commentaire qui avait été fait après l'atelier.
Est-ce qu'on peut parler d'écriture de l'intime ?
Alors, oui, on peut parler d'écriture de l'intime, mais un intime partageable. C'est-à-dire que c'est un intime qui... partageable, ça veut dire qui... ça te concerne, ça me concerne, ça nous concerne, ça concerne l'être humain. Voilà. C'est pas de l'entrée de journal, c'est pas le journal intime, mais c'est un intime partageable. Donc quelque chose qui résonne parce que nous sommes êtres humains et que nous vivons des expériences de fragilité, de force, de faiblesse, de vulnérabilité, de questionnement, mais aussi de recherche, de merveille, etc., etc. Mais ça concerne l'être humain. Voilà. Ça c'est le socle, on va dire.
Comment te renouvelles-tu de cycle en cycle, même d'année en année d'ailleurs, ouais. Les mots voyageurs, depuis combien de temps ça existe?
Ça existe depuis 2006, donc ça fait maintenant 2006, ouais, ça fait longtemps. Moi j'anime depuis 2002, ça fait 21 ans. Ça fait 21 ans. C'est une bonne question parce que je me demande à chaque cycle, je me demande encore, mais c'est quoi le prochain? Et le prochain, il vient. Le prochain vient, c'est-à-dire que le cycle, ce qui fait maison, on l'a fini, mais je ne l'ai pas fait avec tous mes groupes, hein, je fais pas la même chose avec tous les groupes, hein, j'ai 3-4 cycles en même temps en fait, hein, j'ai nuit et jour, j'ai résistance poétique, j'ai chemin de traverse et désir, j'ai carnet de gratitude, enfin j'ai plein de cycles en même temps qui tournent en même temps, et ces cycles-là, c'est de l'eau au moulin à chaque fois, quoi. C'est juste de la recherche, recherche de texte. Recherche de texte et recherche de propositions d'écriture. Je ne fais jamais la même chose. Je crée, en fait... là, je ne te parle que des hebdomadaires, mais j'en crée 30, 40, 50 par année, quoi. Et ensuite, il y a les stages, ensuite, il y a d'autres... Mais c'est-à-dire que je suis constamment en train de chercher de nouvelles propositions d'écriture. Et donc, forcément, je rencontre de nouveaux écrits, et donc de nouveaux auteurs, et donc de nouvelles maisons d'édition. Et c'est ça la richesse, en fait. C'est ça la beauté. C'est qu'en fait, constamment, de nouveaux écrits m'émerveillent ou me disent « Ah, mais oui, mais là, effectivement, ça résonne. Là, je peux en faire quelque chose en atelier d'écriture, sans savoir au préalable ce que je vais faire. » C'est-à-dire que je n'ai pas de logique. Je n'ai pas de résultat. Je ne cherche pas le résultat. Je cherche à combiner, à faire vivre, à faire vibrer des textes de manière à ce que ça puisse vivre chez les participants, pour que leur texte soit traversé par le vivant, en fait. Donc il y a vraiment cette vibration des textes qui permet ensuite à ce que le vivant traverse. Et si au bout du compte, si à la fin de l'atelier, les gens, les participants disent ben, « j'ai l'impression que j'ai écrit un truc que je ne savais jamais que j'écrirais » ou bien « ce que j'ai écrit, mais j'en suis surprise » ou « waouh, je me sens mieux » ou « là, j'ai écrit quelque chose qui je ne sais pas d'où ça vient » où je vois des corps qui sont plus animés que lorsqu'ils sont arrivés, j'ai l'impression que j'ai fait mon travail, quoi. Parce qu'en fait, au bout du compte, tout ça, c'est du mouvement, c'est du mouvement, c'est de la vie. Et donc, je cherche ça. Je cherche à trouver des propositions d'écriture qui puissent animer, c'est-à-dire que j'anime, mais qui puissent animer, qui puissent faire bouger quelque chose.
Qu'est-ce que la substantifique moelle des mots voyageurs, qu'est-ce qu'on vient y chercher tout particulièrement ?
Ils viennent chercher une stimulation, c'est sûr. Ils viennent aussi chercher quelque chose qui les bouscule, mais dans leur intérieur, dans leur profondeur. Ils viennent chercher aussi des textes nouveaux, parce que finalement, je lis beaucoup de textes nouveaux, je lis beaucoup de textes contemporains, ou de textes poétiques contemporains. Ils viennent chercher quelque chose qui vienne toucher leur être à travers les mots. Ils viennent chercher des auteurs qui les bousculent. Et moi, j'ai l'impression enfin, avec Martin et Christine, hein, je veux dire, j'ai l'impression qu'on vient toucher ça. On vient toucher quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui demande à bouger, à vibrer, je me répète, hein. Mais en tout cas, ils viennent chercher cela qui viendrait les faire aller de l'avant, de l'allant, j'ai envie de dire, de l'allant, de l'avant.
Dans l'écriture.
Et au sein d'un groupe bienveillant, et au sein d'un groupe qui est formé petit à petit à l'écoute des textes. C'est-à-dire que c'est pas moi seule qui fais les retours. Alors oui, évidemment, je parle, bon, parce que je parle, mais j'essaye, je tente encore et encore de former les groupes à ce que les retours, des retours miroirs, des retours sur l'écriture, sur le rythme, sur le souffle, sur l'allitération, l'assonance, le champ lexical, la rupture, bref, de faire en sorte que les participants soient aussi dans l'écoute que je peux l'être. De manière à ce que finalement, lorsqu'on a lu son texte, on a réellement été entendu par 10 personnes. Et ces 10 personnes, pas tous, hein, pas toutes bien sûr, mais ces 10 personnes, certaines peuvent faire des retours, de manière à ce qu'on puisse entendre finalement ce qu'on a écrit. Parce qu'on est tellement collé, quand on a écrit son texte, on a tellement collé à ces mots qu'a priori on n'entend même pas finalement que le son « hein, se répète dans son texte, et c'est à l'écoute que les autres peuvent dire bah, t'as entendu que ton texte ça cogne, comment ça cogne, mais les coq. Donc le groupe est extrêmement important pour faire miroir, et on reste sur le texte bien sûr, c'est des retours miroir sur le texte, toujours le texte, que le texte, la personne a écrit le texte, mais c'est le texte qui nous importe, toujours revenir au texte. Donc c'est les tissus, c'est les fibres, hein, texte, tissu, c'est la même étymologie, hein, finalement, les fibres, là, elles sont tissées comment ? Quelle a été la matière qui a été traversée, en fait, pour que ces mots-là émergent sur la page, tu vois ? Et du coup, le groupe, ben, je les forme au fur et à mesure, de manière à ce que ce ne soit pas que moi qui prenne la parole au moment des retours. Et ça, c'est très riche. Parce que ça fait que du coup, voilà, c'est un travail ensemble.
Pour ceux qui ne connaissent pas la structure même d'un atelier d'écriture, est-ce que tu peux juste nous dire comment ça se déroule,
ouais,
simplement ?
Alors, il y a un canevas, on va dire, il y a un canevas un peu classique, je dirais. C'est d'abord, effectivement, une lecture, enfin, peut-être un titre, une thématique, peut-être, et encore. Mais il y a d'abord une lecture de textes diverses, pour le coup, y compris des textes qui portent sur la création littéraire. Hein, ça peut être des poètes et aussi ça peut être des auteurs qui portent sur la création. Je pense à des gens comme Georges Didier Berman qui va nous parler de comment voir, c'est quoi une vision, c'est quoi voir et comment écrire une vision, par exemple. Et puis à partir de ces lectures, il y a un moment plus déclencheur, donc ce qu'on appelle le moment où là subitement tout le monde prend des notes parce que ben oui voilà, il y a quelque chose qui demande à être écrit. Il y a le temps d'écriture plus ou moins long qui se fait en une étape ou deux ou trois, parfois c'est en deux, trois étapes. Et puis il y a le moment de lecture des textes. Qui est toujours le moment un peu, je veux dire, on a tous hâte, hein, on est tous à attendre le moment de lecture, où chacun ou chacune lit son texte et on fait des retours. Alors parfois ce sont des retours guidés, et parfois ce sont des retours qui sont plus, on va dire, qui viennent comme ils viennent, plus, retour du cœur, mais avec toujours, je demande toujours, si quelqu'un dit, mais le texte est beau, j'ai dit, oui, mais bon, ça l'aide pas beaucoup, mais en quoi est-ce qu'il est beau? Et là, on répond, ben, le champ lexical, par exemple, les mots qui sont utilisés, ils font tous partie de tel... Ah, ok. On va essayer de creuser pour comprendre qu'est-ce qui fait que le texte marche, et aussi, peut-être, parfois, quelles sont les pistes de réécriture. C'est-à-dire que parfois, il y a des évidences. Par exemple, un texte qui aurait été écrit complètement au passé, ou passé-présent, ou un mélange de temps, et on se dit, mais pourquoi le passé? Ben parce que ça s'est passé dans le passé. Oui, mais pourquoi est-ce que finalement, bon, c'est un exemple assez banal, hein, je veux dire, mais un texte qui ensuite, voilà, ça donne quoi si ce texte-là était réécrit au présent? Bon, c'est un retour assez banal. Mais on va tenter en tout cas de rechercher aussi des pistes de réécriture.
Et est-ce que les participants retravaillent chez eux leur texte?
Alors certains oui, certains non, certains réécrivent parce que ensuite il y a une lecture de texte public ou il y a on est en train de travailler sur un recueil de textes collectifs, donc forcément il y a réécriture parce que on va publier un texte de recueil collectif, enfin un recueil de textes collectifs. Certains réécrivent parce que ben ils ont aussi un projet de publication, certains réécrivent parce qu'ensuite ils s'envoient les textes, certains ne réécrivent pas du tout, tout est possible en fait.
Donc il y a certains qui ont comme pour motivation le fait de devenir auteur, quand tu dis.
Oui, ben certains le sont d'ailleurs. Oui, certains sont auteurs, certains ont publié, certains sont allés plus loin, certains ont rassemblé les textes qu'ils ont écrits en atelier et ils ont complété. La plupart disent qu'ils écrivent en atelier parce que c'est l'atelier qui stimule leur écriture et que sans l'atelier ils n'écriraient pas ou pas autant. La plupart viennent parce qu'ils ont besoin de l'atelier, comme ils me disent, ils ont besoin de la proposition pour écrire. Et du coup, moi je peux juste parce que certains reviennent en atelier depuis 12 ans, 13 ans, 14 ans. J'ai des écrivains qui reviennent chaque année depuis plus d'une décennie. Donc je crée constamment du nouveau pour eux et je les accompagne dans leur évolution en fait. Et les écritures ont tellement évolué. Les participants osent de plus en plus, hein, être auteur, s'autoriser, oser, tout ça c'est la même étymologie. Hein, donc c'est oser. Être auteur, s'autoriser à aller là où finalement je désire aller dans l'écriture, même si je ne sais pas ce que c'est, mais j'ose aller vers cela. Et de plus en plus, les gens y vont. Donc c'est ça qui est beau, parce que c'est complètement évolutif. Hein. L'écriture évolue. Là, on est en train de finir l'année, on a fini l'année. Et c'était le constat de tous les groupes, de dire, mais on a évolué, on n'écrit plus les mêmes textes, on va plus loin. Notre écriture semblerait plus poétique maintenant qu'elle ne l'était. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir travailler sur cette matière langue, la matière langue qui fait que on soit traversé, pour le coup, traversé par à force de On laisse tomber des murs, on laisse tomber des barrières, même si elles sont toujours là, mais on laisse tomber, on laisse surgir les mots qui sont là, qui demandent à naître. Et c'est ça le travail. Si on voulait dire c'est quoi les mots voyageurs, j'ai envie de dire c'est ça le travail, les mots voyageurs.
C'est pas la hermeneutique finalement.
Oui, je pense que c'est. Et quand tu poses la question, ben c'est quoi les processus d'écriture, c'est tout ça quoi. C'est tout ça. C'est mettre en place toutes ces conditions-là pour que l'écriture puisse advenir et que par. J'aime bien le advenir hein, de mal dîner en fait hein. C'est vraiment pour que quelque chose vienne émerger, jaillir, et pour cela il faut pratiquer. C'est une pratique, ça vient pas du ciel hein. Je veux dire, c'est pas un truc comme ça là qui descend, hop, c'est une pratique tous les jours, une pratique. C'est du travail, c'est comme toute forme d'art. C'est tous les jours, il faut y aller, quoi.
Eh ben, je crois qu'on va terminer là-dessus, sur ce sourire. Et effectivement, le travail, l'écriture, ouais. C'est le travail.
C'est le travail.
Merci
ouais.
Beaucoup, Noël.
Merci à toi.
Ce qui fait maison. Thématique du cycle explorée par les participantes. En voici quelques savoureux poèmes avant de leur laisser la parole.
Elle est assise devant la fenêtre ouverte, rivière de lune sur son visage. La nuit est chaude et parfumée. Elle a gommé les murs depuis longtemps. Les murs de la maison, les murs du rêve, les murs des paroles silencieuses. L'espace s'ouvre, les étoiles dans le ciel, palpitantes. L'espace du dedans se dilate, baptême sur ses lèvres. D'être sans mur, la maison circule en elle, touche l'intérieur de sa peau, dépend de son passé à peine frôlé. Des êtres comme des récifs sur le rivage et qui la font vibrer. L'instant comme la dernière trace. Plus rien que la lumière, un mystère, une soif, celle des arbres en bas, du ciel profond, de la mer sombre au loin. Vertige de la beauté et les oiseaux endormis tout près. Délice des choses autour d'elle qu'elle ne perdra jamais. Dans le silence des mots, l'esquisse sur la toile. J'ai toujours rêvé d'une maison sans mur qui tiendrait juste par la force du regard. D'un chemin intérieur, de vibration. Y entrerait la mer avec ses vagues et ses embruns, des mouettes au creux des lits, le corps brillant d'écume. Y entrerait la chevelure des arbres, le frisson des oiseaux, l'odeur de l'herbe et de l'eau des rivières au printemps, et puis la lumière bleue de l'aube et les nuages roses du couchant. Y entreraient les sensations et leurs couleurs, la musique des mots, la plénitude du silence. Parmi les livres ouverts, les toiles et les aquarelles, les partitions vibrantes, circuleraient tous les visages tendrement aimés et leurs sourires. Y entreraient les souvenirs et l'euphorie des lieux, des êtres et paysages qui m'habitent et qui habiteraient, le temps aboli, cette maison sans mur, extérieur, intérieur. Intérieur, oui, puisque cette maison serait espace du dedans, espace du désir, espace d'une vie. C'est une fenêtre qu'on ouvre sur un ciel de printemps griffé de cris d'hirondelles. Le staccato éphémère du rideau de perles de bois qui égrène ses notes claires. Dans l'angle de la véranda, la verdeur du massif de marguerite qui apaise l'air vibrant de chaleur. La chaise paillée où on a oublié le cabas de toile noire odorant encore des légumes d'été. Le livre ouvert qu'on a abandonné et qu'on a hâte de retrouver comme un ami qu'on aurait un instant trahi. Le porte-manteau sur lequel s'empilent les vêtements. On ne range pas beaucoup ici. Le roulement des billes de charbon dans le froid de l'aube naissante. Et le poêle de faïence bleue qui raconte le père levé le premier. Ma maison, c'est, au retour de la plage, l'odeur des maillots mouillés. Et le souvenir des premiers baisers sur les lèvres salées, le babil de l'enfant qui s'éveille et l'innocence de ses premiers secrets, un sourire furtif qu'on saisit comme une promesse, des souffles et des senteurs qui effleurent ma mémoire, légers comme des herbes folles, fugaces comme des feux follets, et, de l'autre côté de la fenêtre, l'arbre de mes quatre saisons. Feuilles vives, feuilles jaunies, feuilles écrites que je confie au vent. Des herbes hautes envahissent la place. Le macadam de la route s'épuise. La fontaine s'est suspendue. Une clôture délimite. Un panneau protège. Des tessons enferment. Le cimetière surplombe la vallée. Les habitants ont déserté. Une tombe se démarque. La gravure saille. Au loin, une porte se ferme. Des volets brinquebalent et battent. Une boîte aux lettres lit. Derrière la fenêtre, des rideaux jaunissent. La poussière se dépose sur une plante assoiffée. Sur cette route sans issue, des chemins de randonnée se croisent. Une borne incendie flamboyante nous rappelle. Viens mon tour de désert. Je suis le couteau de cuisine. J'ai été façonné par les mains d'un de ceux qui m'empoignent quotidiennement, à coups de marteau. Je suis né dans le feu, mais ma lame vous glace. Dans la cuisine, au cœur de la maison, je trône sur une barre aimantée. D'autres couteaux à mes côtés tentent de me faire de l'ombre, jalousent mes lignes musclées. Mon teint brillant et mon front coupé. Mais moi, je le sais. Je suis le plus beau couteau de cuisine. Je suis le mieux emmanché. Je suis celui qu'on empoigne le plus. Tous les jours, je suis aux aguets. Je vous vois ouvrir les placards à la recherche de denrées, puis vous approcher, nous toiser, nous jauger, hésiter et m'empoigner avec ardeur. J'aime me sentir au creux de votre main, dans ces mouvements de va-et-vient. Avec moi, vous cisaillez une échalote, émincez une gousse d'ail, effeuillez une salade. Je suis dur comme le fer. Et puis, un jour, c'est un autre que vous empoignez, le couteau à viande. Je fonds, je tremble, je bouillonne. Je voudrais me mettre sous sa gorge, gare à cet acier trempé. Puis, vient le temps où je ne coupe plus assez. Je te retrouve et ta pierre glisse contre ma lame. Nos corps s'unissent et se mélangent. Au plus près de toi, je retrouve mon ardeur, ma force, mon envie. Tout feu, tout flamme, je trône de nouveau sur l'aimant. Je suis fier comme un bodybuildier avec ma lame sculptée. Je pavane, je crâne même, je suis en extase quand j'aperçois le couteau à viande près de toi, ma pierre, reproduisant les mêmes gestes, la même intimité. Aimanté, je ne peux bouger. Je râle, je fume, je veux crier. Ça me remue dans ma plaie.
Voilà, ce qui est spécifique, je crois, de l'atelier de Noël, parce que j'ai participé à d'autres ateliers, c'est son extrême exigence par rapport aux mots, c'est-à-dire elle attache une importance au rythme. Et puis en plus, une extrême sensibilité à écouter et à ressentir les textes de l'intérieur, c'est-à-dire il y a une communication presque silencieuse entre nous quand on lit les textes, extraordinaire grâce à elle.
Oui, mais en fait, quand je pense aux ateliers d'écriture, je ne fais pas de sculpture ni de modelage, mais ça revient un petit peu à ça. Je trouve que les mots sont une espèce de matière qu'on modèle et on utilise souvent exactement toujours les mêmes mots, mais on va les réutiliser tellement différemment que le résultat est jamais le même, en fait. C'est voilà, on modèle. Moi, j'ai cette impression-là, de modeler quelque chose.
Parce que les mots ont une chair, une couleur et un son. Alors, tout ça, c'est de l'art. Finalement, moi, c'est ce que je retrouve dans l'écriture poétique que l'on découvre au travers des textes que Noël nous fait découvrir. Et ce que nous en ressentons et qu'on retranscrit à notre manière, mais comme un tableau, je dirais. Voilà.
Mais ce qui est le plus original, c'est que de l'assemblage des mots sort la surprise. On est étonné souvent de ce qu'on a pu écrire et à quoi on ne pensait pas au départ. Et ici, je trouve que c'est une des qualités de cet atelier qui est beaucoup plus riche en notations précises. Et s'il y a d'autres propositions qui ne sont pas des corrections, eh bien là, on sent qu'on peut progresser, qu'on peut avoir une approche plus fine.
Et est-ce que vous êtes vous-même amené à retravailler les textes qui sont créés ici ?
Oui, souvent. Pas toujours, mais souvent.
Moi aussi. Moi aussi. À retravailler. Parce qu'on a eu le retour de Noël, on a eu l'écoute des amis qui sont autour de la table, et ça nous permet de découvrir ce qui manque, ce qui est en trop, et entre autres, au fur et à mesure des mois, j'ai trouvé des changements chez mes amis, des progressions, des changements de personnalité. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que l'expérience de l'atelier d'écriture est une aventure autant littéraire ou poétique que humaine ?
Oui, oui.
Oui, certainement. On découvre d'autres facettes de la personnalité des membres du groupe. Oui, je ne sais pas si c'est forcément toujours une surprise, mais en tout cas, c'est agréable parce que notre perception s'enrichit.
Noël nous transmet sa passion.
Oui, il y a le fait du passage, de la transmission qui est importante.
C'est une transmission bienveillante, mais forte, forte. Et nous sommes enrichis de tous les poètes qu'elle nous cite, qu'elle nous fait connaître, que pour la plupart, nous ne connaissions pas vraiment. Donc, nous apprenons, mais nous apprenons dans un climat particulier où la découverte fait partie du travail, mais on n'a pas l'impression de faire des efforts. On se sent au diapason, peu à peu. Ça vient progressivement.
C'est comme le printemps, quand le soleil commence à réchauffer les bourgeons s'épanouissent. Et ben, c'est un petit peu ça ce qui se passe ici, un printemps.
Alors, mes amis ont parlé de découverte, de surprise, de départ. Ça fait penser au voyage. Donc, les mots voyageurs, ça porte bien ils portent bien leur nom. Parce que le voyageur découvre, il s'en va ailleurs, et la surprise est au bout du voyage.
C'est un voyage intérieur aussi, et surtout.
La poésie, le cheminement, l'aventure, le voyage. L'association porte en effet bien son nom. Merci à Noël, aux différentes participantes, Gilles, Hélène, Charlotte, Marie-Lou, Simone, Géraldine, Marie. Je remercie également Stéphane Cohen, comédien, Patrick Thubeau pour ses propositions musicales, sans oublier Radio Galère.